Une figure d'espérance, voilà comment pourrait être défini Dietrich Bonhoeffer. Celui-ci naît le 4 février 1906 à Wrocław en Pologne, dans une famille de la grande bourgeoisie intellectuelle. Il est le sixième d'une famille de 8 enfants. Si la mère de Dietrich, issue d'une famille de pasteurs luthériens et de militaires, est très pieuse, son père, en revanche, ne fréquente guère l'église. Dietrich réussit son baccalauréat à 16 ans, puis part étudier la théologie, d'abord à l'université de Tübingen, puis à celle de Berlin. Il a en effet décidé de devenir pasteur de l'église luthérienne. Sa famille ne manifeste guère d'enthousiasme, mais respecte son choix. Très jeune, il écrit de magnifiques thèses universitaires sur l'église comme corps mystique du Christ, qui le font remarquer dans le milieu universitaire où il commence à enseigner. Parallèlement à son enseignement, il s'engage dans le mouvement œcuménique et international protestant et noue de précieux contacts avec les églises étrangères. Il est étudiant aux États-Unis, pasteur stagiaire à Barcelone et s'engage aussi auprès d'enfants d'un quartier défavorisé de Berlin. À 25 ans, il est ordonné pasteur et sa carrière universitaire semble toute tracée. Dietrich Bonhoeffer n'est pas un homme qui se tait. Il ose une parole contre l'injustice, l'inhumanité et la haine. Et il va s'insurger contre la force du nazisme et désire que tout homme, tout croyant, résiste aussi contre toute forme de totalitarisme. Bonhoeffer, en théologie engagée, dénonce publiquement le régime nazi le jour même de la prise de pouvoir par Hitler en janvier 1933. Il est l'un des fondateurs et animateurs de l'Église confessante qui s'oppose au courant majoritaire favorable, soit une alliance avec le nazisme, soit à la neutralité à son égard. De 1935 à 1937, il dirige ainsi un séminaire clandestin en Poméranie qui a pour but de former des futurs pasteurs de l'Église confessante. C'est là qu'il écrit 2 livres fondamentaux, « Le prix de la grâce » et « De la vie communautaire », où il affirme l'exigence de la foi et la responsabilité de l'Église dans le monde. En 1939, il part aux États-Unis pour y donner une série de conférences, mais il ne peut pas supporter cet éloignement et rentre dans son pays à la veille de la guerre. Bonhoeffer, conscient du fait qu'une résistance ecclésiastique ne pourrait à elle seule renverser le régime, commence à prendre contact avec des réseaux de résistance grâce à la complicité de membres de sa famille. Il obtient alors un poste d'agent secret qui lui permet des voyages à l'étranger sous cette couverture. C'est ainsi qu'il peut prendre contact avec des résistants. En 1943, il est arrêté, interné à la prison de Berlin, où il passera 18 mois. Faute de preuves, il est relativement bien traité. Il peut lire la Bible, prier, étudier, écrire à ses proches. Les prisonniers et même les gardiens recherchent sa présence et lui demandent des conseils. Il écrit dans un de ses livres que l'hypothèse Dieu n'existe plus et il jette les bases d'une nouvelle manière de penser Dieu et de parler de lui. Il n'a cessé d'espérer en l'avenir d'un monde autre, d'un monde de paix, réconcilié avec lui-même et avec Dieu. Suite à l'attentat contre Hitler en 1944, Bonhoeffer est mis au secret pour être ensuite amené au camp de Buchenwald. C'est là que le 9 avril 1945, Dietrich Bonhoeffer est condamné à mort par une cour martiale de SS et pendu en compagnie d'autres membres de la résistance. Il a 39 ans. L'influence de Bonhoeffer sur la théologie chrétienne contemporaine reste essentielle. Il est connu, étudié, traduit sur les 5 continents. Dans un de ses livres, De la vie communautaire, il écrit « La prière est une force, un don. Chaque homme prie non seulement pour lui, mais aussi porte l'autre dans la prière. Cet autre peut être celui que je supporte le moins, que je refuse de rencontrer. Pourtant, dans la prière et par elle, l'autre devient mon frère. Dans ce don de l'autre à Dieu, je me détache de ma difficulté et je la donne à Dieu pour qu'il rétablisse l'amour. La prière devient alors intercession vers Dieu. L'autre n'est plus celui que je refuse, mais le frère pour qui j'intercède. Mon regard se transforme, je vois l'humanité blessée que seul Dieu peut sauver, guérir, pardonner. L'intercession devient un service que nous devons à Dieu et à tous nos frères. Le refuser, c'est leur refuser le service par excellence du chrétien. »